بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, شرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi et une explication de Sheikh Abdullah al-Bassam رحمهم الله تعالى. La semaine dernière, on avait vu plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, qui se propose pour nous le réciter. إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ إِمْرَأَتُهُ, qui se propose, Tadal Hamad.
أخبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول
والله
لم يعبدن. وفي
رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لا تمنعوا مساجد الله. Ahsan, tabarakallahu fik. Le second hadith qu'on avait vu, c'était le hadith d'Abdullah ibn Umar également. Sallaytu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qui se propose? Hafid. Qui l'a pris? Abdul Aziz. Jawad, tfadda.
Al-Abdillah ibn Umar radiallahu anhu. Qala. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. رواه البخاري ومسلم. وفي اللفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته.
نعم.
البخاري ومسلم. وفي اللفظ للبخاري عن ابن عمر قال حدثني حفصة
حدثتني
حفصة.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر, وكانت ساعة لا أدخل فيها لا أدخل
لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. أحسن, بارك الله فيك. Et le troisième hadith, le hadith de Aisha رضي الله تعالى عنها, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء. Nadir, Hassan, tu baisses la tête.
على ركعتي الفجر.
نعم.
وفي لفظ مسلم
ركعتا الفجر
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
أحسنت بارك الله فيكم. طيب يقول المؤلف رحمه الله الحديث الحادي والستون في الوتر دي لو 61 حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتر الإقامة رواه البخاري ومسلم. اسم أنس بن مالك رضي الله عنه الجي في بلال رضي الله عنه a été ordonné de faire l'adhan de façon pair et l'iqama de façon impair. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. غريب الحديث أمر بلال مبني للمجهول والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع واختلف أهل الأصول هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها الرفع أو لا والصحيح أنها تقتضيه لأن الظاهر أن الآمر من له الأمر الشرعي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Bilal a été ordonné. Ici, la personne qui lui a ordonné n'a pas été citée. Mais il est clairement, il est évident que c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ainsi, ce hadith qui est à la base la parole de qui? De Anas ibn Malik. C'est donc un athar. A le jugement de l'marfou'. Et le hadith al-marfou', c'est le hadith qui va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, cette information dont nous a fait part Anas ibn Malik, elle a le jugement d'un hadith marfou'. C'est comme si c'était un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car qui a ordonné Bilal, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants de l'usul ont divergé sur est-ce que de tels paroles ont le jugement de l'marfou' ou pas, et l'avis le plus sûr c'est que oui, des paroles ainsi, on comprend que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en est le demandeur ou qui en est celui qui en a donné l'ordre, et ainsi cela a le jugement d'un hadith marfou'. Thaniyan an yashfa'al adhan ya'ni ya'tiya bi alfadhihi shaf'a أي مثنى والمثنى مرتان. Deuxièmement, de faire l'adhan de façon paire. C'est-à-dire que ces formules doivent être paires, c'est-à-dire elles doivent venir en double. ثالثا يوتر الإقامة يعني يأتي بألفاظها وترا وهو نقيض الشفع. Et de faire l'iqama de façon impaire, c'est-à-dire que ces formules soient impaires. Et l'impair, c'est le contraire de pair. Al-ma'na al-ijmali. Amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'adhdhinahu bilalan an yashfa' al-adhan li'annahu li'i'lam al-gha'ibin fayati bi alfadhihi mathna mathna وهذا عاد التكبير في أوله فقد ثبت تربيعه وكلمة التوحيد في آخره فقد ثبت إفرادها كما أمر بلالا أيضا أن يوتر الإقامة لأنها لتنبيه الحاضرين وذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة وهذا عاد التكبير وقد قامت الصلاة فقد ثبت تثنيتها تثنيتهما فيها فقد ثبت تثنيتهما فيها. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné son muadhdhin, qui est l'appeleur à la prière. Il a ordonné son muadhdhin Bilal de faire l'adhan de façon paire, car le but de l'adhan est d'annoncer l'heure de la prière à ceux qui sont absents. Et que ces formules doivent être répétées deux fois. Et ceci excepté le takbir au début, car il a été rapporté qu'il doit être dit quatre fois. Lorsque le muezzin dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il a dit combien de fois? le takbir 4 fois. Donc, dans l'adhan, tout doit être dit 2 fois, sauf 2 exceptions. La première, le takbir au début, car il y a un takbir aussi à la fin. Donc, le fait de dire le takbir au début est important. Wa kalimatu at-tawhid fi akhirih. Et la parole de tawhid qui est la ilaha illallah à la fin. À la fin de l'adhan également, il a été rapporté que celle-ci se dit uniquement une seule fois. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Donc le kalimat al-tawhid est dit une seule fois à la fin. Et de la même façon, le prophète sallam a ordonné Bilal de faire al-iqama de façon impaire. Car le but de l'iqama n'est pas d'annoncer la prière à ceux qui sont absents, mais c'est pour prévenir ceux qui sont présents. Prévenir ceux qui sont présents. Et ceux qui sont présents, tu ne vas pas les appeler comme ceux qui sont absents. Donc une seule fois suffit. Et ainsi de dire l'iqama et les phrases, les formules de l'iqama une seule fois. Et il y a à cela deux exceptions. La première qui est le takbir au début, Allahu Akbar, qui doit être dit deux fois, ainsi que la formule Qad qamatis salah, qui elle aussi est dite deux fois. Donc l'iqama c'est de dire Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Qad qamatis salah, Qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et on verra par la suite qu'il y a d'autres formules et d'autres façons de faire l'iqama et qu'il est autorisé de dire deux fois aussi pendant l'iqama. Que cela est rapporté dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et on verra par la suite également que le hadith de Anas, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné Bilal, que ceci est qu'il fallait le comprendre dans le sens que cela était préférable, car d'autres façons de faire les l'iqama ont été rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ikhtilaf al-ulama, la divergence des savants. Ikhtilaf al-ulama fi hukm al-adhan wa al-iqama, fa dhahab al-imam Ahmad wa ba'd al-malikiyya wa ba'd al-shafi'iyya wa ata' ila annahuma wajiban 'ala al-kifayah للرجال البالغين مستدلين على ذلك بأدلة كثيرة منها حديث الباب لأن الأمر يقتضي الوجوب ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن الحويرث فليؤذن لكم أحدكم وغير ذلك من الأحاديث ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل من تركها. Les savants divergent sur le jugement de l'adhan et de l'iqama. Et l'imam Ahmed et certains savants de l'Malikiyya et également certains savants de Shafi'iyya, de même que Ata, sont de l'avis que l'Iqama et l'Adhan sont une obligation qui, lorsqu'elle est faite, eh bien, elle est, les autres musulmans en sont exemptés. Et ceci concerne les hommes. Ils ont pour preuve beaucoup de hadiths, parmi les hadiths, celui de Anas que l'on explique actuellement. Car il considère que l'obligation, le fait que Bilal en a été ordonné, cela prouve l'obligation. Et l'autre hadith de Malik ibn al-Huwayrith radiallahu anhu, rapporté dans le Bukhari et le Muslim, où le prophète sallam a dit que l'un d'entre vous fasse l'adhan pour vous. فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. Et d'autres hadiths également, car l'adhan fait partie des emblèmes apparents de l'islam, et qu'il est autorisé au gouverneur de combattre ceux qui délaissent cet emblème. وقد خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء لما روى البيهقي عن ابن عمر بإسناد صحيح ليس على النساء أذان ولا إقامة لأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر ولسنا من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع وذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان وليسا بواجبين، مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة لم يؤذن وإنما أقام فقط، ويعارض ما نقل عن تركه الأذان بما روى البخاري عن ابن مسعود أنه صلاها في جمع بأذانين وإقامتين. Et certains savants ont restreint cette obligation aux hommes sans les femmes. Et la preuve est ce qui a été apporté par Al-Bayhaqi selon Abdullah ibn Umar à travers une chaîne authentique que les femmes, il n'y a pas d'adhan et de iqama pour les femmes. Et que ce qui est demandé aux femmes est de baisser leur voix et de se cacher et de se recouvrir. Elles ne font donc pas partie des gens de l'jama'a et de celles qui se réunissent. Et al-Hanafiyya ainsi que al-Shafi'iyya considèrent eux que al-Adhan et l'Iqama sont deux sunnah qui ne sont pas obligatoires. Et leur preuve est un hadith que beaucoup de savants ont authentifié, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de l'Muzdalifa n'a pas fait l'adhan, mais qu'il a fait uniquement l'Iqama. La nuit de l'Muzdalifa, lorsque le pèlerin part de l'Arafat vers l'Muzdalifa, il doit prier à l'Muzdalifa, quelle prière? Al-Maghrib wa al-Isha. Et vient contredire ce hadith, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qui est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié al-Maghrib al-Isha à al-Muzdalifa en faisant deux adhan et deux iqama. Le hadith est apporté par al-Bukhari. Les autres savants ont répondu à cette ambiguïté par le hadith de al-Bukhari. Ala anna Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ذكر في الاختيارات أن طوائف من القائلين بالسنية الأذان يقولون إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، فالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظ، لأن كثير من العلماء يطلقون القول بالسنة على ما يذم ويعاقب تاركه شرعا، أما من زعم أنه سنة لا إثم على تركه فقد أخطأ. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dans son livre الاختيارات explique que certains savants de ceux qui disent que l'adhan et l'iqama sont une sunnah disent également que lorsque les gens d'une contrée ou d'un pays se mettent d'accord sur le fait de délaisser l'adhan, alors ils doivent être combattus. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah utilise cette parole pour dire qu'en vérité, il y a une divergence dans les mots employés, mais tout le monde est d'accord sur l'obligation de l'adhan, car ces savants qui disent que c'est une sunna. Pourquoi autoriserait-il que l'on combatte des gens qui délaissent une sunna? C'est une preuve que le mot sunna qu'ils utilisent n'est pas dans le sens que l'on connaît ou dans le sens qu'utilisent les savants du fiqh, à savoir que c'est une chose qui, lorsqu'elle est délaissée, eh bien, la personne a un péché et elle est considérée comme avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le sens qu'ont voulu ces savants et non pas le sens qui est connu, à savoir qu'une sunna, celui qui l'a fait, il est récompensé et celui qui la délaisse n'est pas châtié. Ça, c'est la définition la plus propagée, celle qui est utilisée par al-fuqaha. Mais ces savants qui ont dit que l'adhan et l'iqama sont une sunna n'ont pas utilisé le mot sunna dans ce sens. C'est ce qu'a expliqué Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. واختلفوا ايضا في صفه الاذان والاقامه فذهب الامام احمد الى جواز كل ما ورد من صفه الاذان والاقامه لكنه اختار اذان بلال واقامته واذان بلال المشار اليه 15 جملة 4 تكبيرات ثم 4 تشهدات ثم 4 حيعلات ثم تكبيرتان ثم يختمه بلا إله إلا الله والإقامة المشار إليها 11 جملة تكبيرتان ثم تشهدان ثم حيعلتان ثم قد قامت الصلاة مرتين ثم تكبيرتان ثم يختم بلا إله إلا الله. وإلى هذه الصفة ذهبت الحنفية والشافعية وجمهور العلماء، واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة، وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكره أحد. Et les savants ont également divergé sur la description de l'adhan et de l'iqama. L'imam Ahmad considère qu'il est autorisé de mettre en pratique toutes les façons de faire l'adhan et l'iqama. Mais il considère que la meilleure de ces façons est l'adhan et l'iqama de Bilal, radiyallahu ta'ala anhu. Et l'adhan de Bilal est un adhan composé de 15 phrases. Il est composé de 4 takbirs. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis de 4 tashahudat. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous savez combien de phrases là?
8.
ثم أربع حيعلات في كاتخ حيعلة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Et beaucoup de muezzins font l'erreur en disant حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Ce n'est pas حي على الصلاة mais c'est حي على الصلاة على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. Ça fait 12. ثم تكبيرتان الله أكبر الله أكبر. Puis deux تكبير. Ça fait 14. Et يختم. Et il est conclu par لا إله إلا الله. Cela fait donc 15 phrases. والإقامة المشار إليها 11 جملة. الإقامة الإقامة de Bilal est composée elle de 11 phrases. تكبيرتان دو تكبير الله أكبر الله أكبر دو تشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله puis de deux حيعلتان حي على الصلاة حي على الفلاح. Ça fait combien? 6. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة deux fois. 8. الله أكبر الله أكبر 10. لا إله إلا الله 11. Et c'est cette façon qu'on choisit Al-Hanafiyya ainsi que Shafi'iyya ainsi que la majorité des savants. Et la preuve est le hadith d'Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu dans qui décrit la description de l'adhan et de l'iqama. Et également ils ont pour preuve que c'est l'adhan qui a été fait à Mecca. Et c'est le dan que font les gens de Mecca, de la Mecque. Et malgré les rassemblements des musulmans, que ce soit pour le commerce ou que ce soit pendant le Hajj ou la Umrah, personne n'a contredit cet adhan. وذهب مالك أبو يوسف وبعض العلماء إلى تثنية التكبير الأذان محتجين لبعض روايات حديث عبد الله بن زيد وبأذان أبي محذورة وبحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان والحق أنه لا منافاة والصفات كلها جائزة والأولى الأخذ بالزائد لأن الزيادة التي لا تنافي إذا كانت من ثقة فهي مقبولة. قال ابن حزم إنما اخترنا أذان أهل مكة لأن فيه زيادة ذكر الله. الإمام مالك أبو يوسف et d'autres savants eux ont choisi le fait de dire le takbir deux fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est ça que vous voyez beaucoup au Maroc, les muezzinoun, qu'est-ce qu'ils disent? Combien de fois le takbir, ils le disent? Deux fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cela est authentique, c'est une façon autorisée, rapportée dans des versions du hadith d'Abdullah ibn Zayd, mais il est aussi rapporté, et c'est aussi le adhan d'Abu Mahdoura, que Abu Mahdoura, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a enseigné le adhan. Et le adhan de Abu Mahdoura est connu pour quoi? Pour quelle particularité? On l'avait vu ça. L'azan d'Abi Mahzoura, sa particularité c'est le tarji'. C'est quoi le tarji'? C'est de dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, à voix basse. Puis de redire à voix haute. Ça on verra par la suite, inshallah. Et il n'y a pas de contradiction, comme le dit Cheikh Al-Bassam, il n'y a pas de contradiction entre toutes ces différentes façons de faire l'adhan. Elles sont toutes autorisées. Et celles où il y a plus sont les meilleures. Ainsi, l'imam Ibn Hazm a dit, nous avons choisi l'adhan des gens de la Mecque, car il y a plus de rappels d'Allah. Autrement dit, le hadith de Bilal, le adhan de Bilal est l'adhan le plus complet, c'est là où il y a plus de phrases, donc c'est là où le nom d'Allah est le plus cité. Ainsi, c'est le meilleur. Ortalafu fi tarji' al-adhan, wa ma'na tarji' an yaqula al-mu'adhdhin at-tashahhud khafidhan bi sawtah, thumma yu'iduhu rafi'an sawtah, fadhahabat al-malikiyyah والشافعية إلى استحبابه وهو عمل أهل الحجاز أخذا بحديث أبي محذورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه في مكة. Ils ont divergé sur le tarji' dans l'adhan. Et la signification de tarji' c'est que le muezzin dise le tashahhud à voix basse. Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ensuite à voix basse il dit Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu la ilaha illallah, أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يا فؤاد يردي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله et il continue l'adhan. Il y a d'autres façons aussi de dire une seule fois أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله et de dire ensuite deux fois أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله deux fois. Le tarji' al-Malikiyya et al-Shafi'iyya, eux considèrent que cela est préférable et c'est également un adhan qui est pratiqué par les gens du Hijaz en prenant bien sûr en compte le hadith d'Abu Mahdoura car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné lorsqu'il était à la Mecque. وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب احتجاجا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد والإمام أحمد يجيد الأمرين ولكنه يختار أذان بلال قال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح فإن ربع أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز. Et Al-Hanafiya, eux, considèrent que ce n'est pas préférable et ils utilisent le hadith de Abdullah ibn Zayd dans lequel il y a le tarji'a n'est pas cité. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, dit que les deux sont autorisés mais que le mieux est le hadith de Bilal, radiyallahu anhu. Et Ibn Abdul Bar, rahimahullah, un grand savant de l'islam, dit que l'imam Ahmed, Ishaq, Daoud et Ibn Jarir disent que cela fait partie d'une divergence autorisée. À savoir que toutes ces différentes façons de faire donnent aux musulmans la possibilité de faire al-adhan de plusieurs façons. Il n'y a pas de contradiction entre ces différentes sortes. Il dit donc, s'il le dit quatre fois, fa'in rabba', c'est-à-dire s'il dit quatre fois le takbir, أو رجع أو s'il veut faire le tarji أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو de dire deux fois les formules de l'أذان et une fois les formules de l'إقامة أو ثناها معه ou bien de faire l'إقامة deux fois ou de répéter deux fois les formules de l'إقامة, tout ceci est autorisé. Donc dans la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, il est également rapporté que l'iqama se fait comme l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Cette façon est également apportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un muadhin qui fait l'iqama de cette sorte, on ne doit pas lui reprocher car il a appliqué une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما يؤخذ من الحديث وجوب الأذان والإقامة أخذا من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث قال ابن حجر هو قول محقق الطائفتين من المحدثين والأصوليين. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, l'obligation de l'adhan et de l'iqama, car c'est un ordre qui provient du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et cette façon de décrire ou d'avoir rapporté ce hadith, eh bien, fait de la parole de Anas une parole qui a le jugement d'un hadith jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah a dit que cette parole est la parole de grands savants parmi les muhaddithin, les gens du hadith, et Al-Usuliyin, les savants de Usul al-Fiqh. ثانيا استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة لأن الوجوب معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد. Deuxièmement, on retient de ce hadith qu'il est préférable que l'adhan soit pair et l'iqama impair. On dit qu'il est préférable car si l'on disait que cela était obligatoire, l'on serait en contradiction avec les autres descriptions de l'adhan et de l'iqama qui ont été rapportées de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ainsi, de prendre l'ensemble, il faut prendre l'ensemble des preuves et des hadiths en considération, à savoir l'autorisation de mettre en pratique tout ce qui a été rapporté. ثالثا شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة لكونه نداء للبعيد. Que l'adhan est plus important que l'iqama, car l'adhan permet d'appeler les gens qui sont lointains. رابعا والمراد بشفع الأذان ما عدا التكبيرات الأربع في أوله وكلمة التوحيد في آخره فإنها مخصصة مخصصةٌ بأدلة أخرى. Et ce qui est voulu, ou lorsque l'on dit que l'adhan est pair, c'est-à-dire que l'on dit deux fois les formules, il y a exception, comme cela a été vu tout à l'heure, il y a exception sur les takbir au début qui se dit quatre fois et la parole du tawhid à la fin qui se dit une fois. Et cela a été rapporté dans d'autres hadiths. والمراد خامسا المراد بوتر الإقامة ما عدا التكبيرتين في أولهما وقد قامت الصلاة فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخرى. Et également pour الإقامة qu'elle est impaire en dehors des deux takbir qui sont au début qui se disent deux fois et de قد قامت الصلاة qui elle aussi se dit à deux reprises. Et deux n'est pas impair. الحديث الثاني والستون. Le 62e hadith. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السؤائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة رواه البخاري ومسلم. Le 62e hadith. Selon Abu Juhayfa Wahb ibn Abdillah al-Suwa'i, il dit je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sous sa tente rouge, une tente faite de peau tannée. Il dit, Bilal est sorti avec l'eau par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions. فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ Il y avait alors, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui s'aspergeaient de cette eau et d'autres qui prenaient l'eau de ceux qui l'avaient pris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il avait un manteau rouge et je voyais la blancheur de ses mollets, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il a alors fait ses ablutions, وَأَذَّنَ بِلَالِ et Bilal a fait l'adhan à la prière, a fait l'appel à la prière, et Abu Juhayf a dit, et je suivais la bouche de Bilal d'ici vers là. Il disait, à droite et à gauche, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ Puis, une lance, une petite lance, a été plantée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié la prière de Dhuhr en faisant deux unités de prière et il n'a cessé de prier deux raka'at jusqu'à ce qu'il soit retourné à Médine. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-Hadith fi qubbatin min Adam jam'u adim wal-udam bi dhammi al-hamzati wa fathiha الجلد المدبوغ والقبة هي الخيمة أو الخيمة Les termes qui méritent explication. Abu Juhayfa radiallahu anhu dit que le professeur Hassan était dans une qubba. في قبة من أدم. Et le terme Adam est le pluriel de Adim. Et Al-Udam ou Al-Adam, il est autorisé de dire les deux, c'est une peau tannée. C'est une peau d'un animal, tannée. Et cette peau, une fois tannée, était utilisée pour faire des tentes. Et Al-Qubba, ce n'est autre que la tente. Ainsi, le professeur Sam était sous une tente rouge, une tente faite avec de la peau tannée. Thaniyan wadou ya'ni al-ma. Lorsque Bilal est sorti avec al-wadou, al-wadou c'est l'eau avec laquelle on fait les ablutions. Ça on l'a dit à plusieurs reprises. Et la différence entre al-wadou et al-wadou, al-wadou c'est l'acte de faire les ablutions. Thalithan hullah la takunu illa min thawbayni izarun warida. أو غيرهما وتكون ثوبا له بطانة الحلة j'ai dit manteau, c'est une erreur, c'est un vêtement qui est composé de deux étoffes, al-rida wal-izar, une étoffe supérieure et une étoffe inférieure, ou elle peut être constituée d'autres qu'un rida et un izar, mais dans tous les cas c'est un vêtement en deux pièces. Et c'est également un vêtement qui a une doublure. وَتَكُونُ ثَوْبًا لَهُ بِطَانًا C'est-à-dire qu'il a une doublure. رَابِعًا فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ النَّضْحُ الرَّشُّ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَخْذُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّبَرُّكِ وَالنَّائِلُ الْآخِذُ مِمَّنْ أَخَذَ مِنْ وُضُوئِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Il y avait parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم Al-Nadih wa al-Nail. Al-Nadih qui signifie arroser. Et cela signifie que il prenait de l'eau du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec laquelle il a fait ses ablutions et il s'arrosait de celle-ci en recherchant la baraka, en recherchant la bénédiction. Wa al-Nail et al-Nail, c'est celui qui a pris de celui qui a pris l'eau par laquelle le professeur sallam a fait son ablution. Ainsi, lorsque l'un prenait, bien les autres venaient prendre de celui qui avait pris. Ceci pour montrer leur grande motivation et l'importance qu'ils donnaient au fait d'avoir et de bénéficier de la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khamisan, atatabba'u fahu hahuna wa hahuna, gharfa makanu al-muradu, yaltafitu jihat al-yamin, wa jihat al-shimal, liyabluga man hawla. Et je suivais sa bouche d'ici vers là, c'est-à-dire que Bilal radiallahu anhu tournait sa tête à droite et à gauche afin que l'adhan, que l'appel à la prière arrive à toutes les personnes qui sont autour de lui, quelle que soit leur direction. Anazah rumhun qasirun fi tarafihi hadidah daqiqatu ra's يقال لها زج والعنزة بفتح العين والنون والزاي آخره تاء مربوطة. Et العنزة c'est une lance, une petite lance avec au bout une partie en métallique qui est fine et qui permet ou qui facilite le fait de planter, qui facilite le fait que la flèche se plante. Et c'était un moyen utilisé au prophète, par le prophète sallam, pour ou comme sutra, comme obstacle. Al ma'na al ijmali kana an nabiy sallallahu alayhi wa sallam nazilan fil abtah fi a'la makkah fa kharaja bilal bi fadli wudu' an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ja'ala an nas yatabarrakun bihi wa adhana bilal qala abu juhayfa fa ja'altu atatabba'u faha bilal wa huwa يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح ليسمع الناس حيث إن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة ثم ركزت له رمح قصيرة لتكون سترة له في صلاته فصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة لكونه مسافرا. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était descendu à Al-Abtah, qui est un endroit proche de la Mecque, dans les hauteurs de la Mecque. Et Bilal radiallahu anhu est sorti avec ce qui restait de l'eau par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions. Et les gens ont pris alors cette eau et recherchaient dans celle-ci la bénédiction. Puis Bilal a fait l'appel à la prière. Et Abu Juhayfa a dit, et je suivais la bouche de Bilal lorsqu'il tournait à droite et à gauche au moment où il disait « Hayya ala salah, hayya ala al-falah » afin que les gens puissent entendre. Car ces deux phrases sont un appel et une recommandation à venir à la prière. Venez à la prière, venez à la félicité. Et al-falah, c'est le fait de gagner à la réussite. Puis, une petite lance a été plantée afin qu'elle soit un obstacle, une sutra pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dhuhr en accomplissant deux unités de prière. Et le professeur sallam n'a cessé pendant son séjour à la Mecque de prier toutes les prières de quatre rak'at, de les prier en deux. Et ceci jusqu'à ce qu'il soit retourné à Médine, car le professeur sallam était voyageur. Le professeur sallam ayant émigré à Médine, lorsqu'il allait à la Mecque, qui est son village natal, et la ville dans laquelle il a grandi sallallahu alayhi wa sallam, mais parce que du moment où il a déménagé à Médine, le fait qu'il soit à la Mecque faisait de lui un voyageur sallallahu alayhi wa sallam. Ma yu'khadu min al-hadith. Awalan mashru'iyatu l'iltifat al-mu'adhdhin yaminan wa shimalan 'inda qawlihi hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah. Wal hikmatu fi hadha tablighu an-nas liya'tu ila as-salah. Premièrement, qu'il est légiféré au mu'adhdhin de se tourner à droite et à gauche au moment où il dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Et la sagesse est afin que ces paroles bien précises soient entendues des gens pour qu'ils viennent à la prière. Et on avait vu que le muezzin, lorsqu'il tourne à droite et à gauche, est-ce que c'est tout son corps qui tourne ou est-ce que c'est uniquement sa tête? C'est uniquement sa tête. Donc le muezzin dit comme ça, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Mais de tourner son corps à droite et à gauche, cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, mashru'iyyatu qasr al-ruba'iyyati ila ruk'atayn fi as-safar wa ya'ti insha'Allah. Deuxièmement, qu'il est légiféré de raccourcir les prières de 4 rak'at en 2 lorsque la personne est en voyage, et ceci viendra par la suite, c'est-à-dire lorsque l'on va parler de la prière du voyageur. Thalithan, mashru'iyyatu as-sutrati amama al-musalli wa law fi Makkah wa ya'ti insha'Allah. Troisièmement, qu'il est légiféré d'avoir une sutra, que le prieur qui prie doit avoir une sutra même s'il est à la Mecque. Et cela viendra par la suite. Rabi'an, shiddatu mahabbati as-sahaba lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tabarrukihim bi atharihi, walakin la yalhiquhu fi dhalika al-ulama was-salihun, fa inna lahu khususiyat ينفرد بها عن غيره ومن قاس غيره عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ. Quatrièmement, le grand amour qu'avaient les compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils cherchaient la bénédiction dans les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans tout ce qu'il laissait. On avait plusieurs reprises que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam prenaient tout ce qui provenait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et recherchaient la bénédiction. Même les crachats du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'atteignaient pas le sol, car les compagnons se battaient pour récupérer les crachats du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'y rechercher la bénédiction. Et également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait et qu'il laissait de l'eau, eh bien, il se battait pour prendre le reste de l'eau. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait, eh bien, il se battait pour prendre les restes de son plat. Radiyallahu ta'ala anhum. Et ceci est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ainsi que les vertueux et les pieux n'ont pas ce jugement. Car c'est quelque chose qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui fait une analogie entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux, les saints et les savants sur ce point ont fait une erreur. Khamisan, warada fi ahaditha kathira an-nahyu an labs al-ahmar lil-rijal, fa minha ma fi al-Bukhari anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam naha 'an al-mayathir al-humur, fa kayfa ذكر هنا أن عليه حلة حمراء. ذكر ابن القيم في الهدي النبوي أو زاد المعاد أن الحلة هنا ليست حمراء خالصة وإنما فيها خطوط حمر وسود، وغلط من ظن أنها حمراء بحتة لا يخلطها غيره، والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها حمراء. Cinquièmement, il est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques l'interdiction de porter des vêtements rouges pour les hommes. Et parmi ces hadiths, le hadith de Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter des vêtements rouges. Comment est-ce que Abu Juhayfa a alors rapporté dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des vêtements rouges? Et l'imam Ibn Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Hadi al-Nabawi, ou appelé autrement et de façon plus connue Zad al-Ma'ad, que les vêtements qu'apportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas rouges complètement, mais qu'ils comportaient des traits rouges ainsi que des traits noirs. Afin, des traits rouges ainsi que des traits noirs. Et ceux qui ont pensé que ces vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient entièrement rouges ont fait une erreur. Et un vêtement dont les traits sont majoritairement rouges sont appelés des vêtements rouges.
ورأيت نقلا عن شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه لبسها لبيان الجواز.
Il dit, c'est-à-dire le même Abdullah al-Bassam,
et j'ai vu, d'après notre cheikh Abdurrahman al-Sa'di, car on a vu dans, lors de la biographie de cheikh Abdullah Bassam, que c'est un élève de cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahumullah, que le professeur Hassam l'a porté pour montrer l'autorisation. Que pour rassembler le hadith dans lequel il est interdit de porter des vêtements rouges et que le professeur Hassam ait porté des vêtements rouges, cheikh Sa'di dit que le professeur Hassam l'a porté pour montrer l'autorisation et qu'il est détestable de les porter, ils ne m'ont pas interdit. وعندي أن جمع ابن القيم أحسن لأن النهي عن الأحمر الخالص شديد فكيف يلبسه لبيان الجواز والله أعلم. Et Cheikh Al-Bassam dit, et pour moi, le rassemblement d'Ibn al-Qayyim est meilleur. Car l'interdiction de porter un vêtement rouge entièrement est une interdiction qui est forte et violente. Comment le professeur sallam aurait pu-t-il le porter pour montrer l'autorisation? Et les hadiths qui interdit le fait de porter rouge sont nombreux, et on a vu hier, lorsque le prophète sallam a vu ce compagnon qui a porté les vêtements rouges, qu'est-ce qu'il lui a dit? Innaha min thiyab al-kuffar fala talbasha. Elle fait partie des vêtements, cela fait partie des vêtements des non-musulmans, ne le porte pas. Wa dhakara al-qadi Iyad anna fi al-kalam taqdiman wa ta'khira. Fatawadda'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa kharaja Bilal bi wudu wa yu'ayyidu qawluhu ويؤيد قوله رواية البخاري خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. Et القاضي عياض رضي الله عنه a dit, il y a dans la parole de Abu Juhfa رضي الله عنه un تقديم et un تأخير, c'est-à-dire il y a une partie de sa parole qui a été précédée, qui a été dit avant, qui a été dite avant, et l'autre après. Fatawadda'a Rasulullah fa kharaja Bilal biwadu. Lorsqu'il a dit, le prophète sallam a fait ses ablutions, et lorsqu'il a dit, Bilal est sorti avec l'eau par laquelle le prophète sallam a fait ses ablutions. Et lorsqu'on revient au hadith, il dit, je suis parti voir le professeur sallam qui était dans sa tente rouge faite de peau tannée. Il dit, et Bilal est sorti avec l'eau par laquelle le professeur sallam a fait ses ablutions. Et alors c'est là où les compagnons se sont mis à prendre cette eau et à s'en asperger. Et c'est par la suite qu'il dit, puis le professeur sallam a fait ses ablutions et Bilal a fait l'adhan. Le prophète sallam a-t-il fait les ablutions avant que Bilal sorte ou après? Avant. Parce que le wado, c'est l'eau avec laquelle on a fait les ablutions. Et cette eau n'est bénie qu'après que le prophète sallam l'ait utilisée. Car avant que le prophète sallam ne fasse les ablutions, est-ce que c'est une eau bénie? Non. Ce n'est qu'après l'utilisation du prophète sallam de cette eau qu'elle devient une eau bénie. Ainsi, il y a la parole de Abu Juhfa, lorsqu'il a dit que Bilal est sorti, a été précédé, et lorsqu'il a dit que le prophète sallam a fait ses ablutions, cette parole a été dite après. Donc, et ce qui appuie cela est la version de Bukhari, rahimahullah, lorsqu'il dit que le prophète sallam est sorti à Al-Hajirah et que l'on lui a apporté l'eau avec laquelle il fait ses ablutions, il a fait ses ablutions, et c'est ensuite que les gens ont pris ce qu'il restait de cette eau et se sont essuyés avec. C'est une preuve que Bilal radiallahu anhu est sorti après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait ses ablutions. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث والستون عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رواه البخاري ومسلم. Et selon le 63e hadith, selon Abdullah ibn Omar, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bilal fait l'appel à la prière de nuit, mangez et buvez jusqu'à ce qu'appelle à la prière Ibn Ummi Maktoum. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali. كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وكان ضريرا فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر لأنها تقع وقت نوم ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها فكان صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه إلا إلى أن بلالا يؤذن بليل فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني وذلك لمن أراد الصيام فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة وهو خاص بها ولا يجوز فيها عداها أذان قبل دخول الوقت واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح هل يكتفى به أو لا بد من أذان ثاني لدخول الوقت وجمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفى به. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deux muadhin, deux personnes qui appelaient à la prière. Bilal ibn Rabah et Abdullah ibn Ummi Maktoum. Et Abdullah ibn Ummi Maktoum était aveugle. Quant à Bilal, radiyallahu anhu, il faisait l'appel à la prière de l'Fajr avant l'apparition de l'aube. Car la prière de l'Fajr a lieu dans un moment où les gens dorment. Ils ont donc besoin de se préparer avant que l'heure de celle-ci n'entre. Pour cela que Bilal faisait l'adhan de l'Fajr avant, faisait le premier adhan de l'Fajr avant l'heure de l'Fajr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la remarque à ses compagnons en leur disant que Bilal fait l'adhan de nuit et il ordonnait de manger et de boire jusqu'au lever, jusqu'à l'apparition de l'eau, pour ceux qui voulaient jeûner. Puis le deuxième adhan, qui était Ibn Ummi Maktoum, faisait l'adhan, le second, lorsque l'aube apparaissait. Comment est-ce qu'il faisait l'adhan vu qu'il était aveugle? Comment il savait que l'aube apparaissait? Yuqalu lahu, comme cela est rapporté dans d'autres hadiths, asbahta asbah, c'est-à-dire l'aube est apparue, et c'est lorsqu'on lui disait cela qu'Ibn Ummi Maktoum radiallahu anhu faisait l'appel à la prière. Et pour celui qui voulait faire, qui voulait jeûner ce jour-là, lorsqu'il entendait l'adhan d'Ibn Ummi Maktoum, alors il devait s'abstenir de boire et de manger, et l'heure de la prière était alors entrée. Et ceci est propre à cette prière. Et il n'est pas autorisé de faire l'adhan avant l'entrée de l'heure d'une prière, uniquement, sauf pour la prière de l'Fajr. Donc celui qui veut faire une analogie avec une autre prière, cela n'est pas légiféré. Et les savants ont divergé sur le premier adhan de Al-Fajr. Suffit-il ou bien faut-il obligatoirement faire le second adhan qui appelle et qui montre l'entrée de l'heure de la prière? La plupart des savants sont de l'avis que ce premier adhan, d'une part, est légiféré et d'autre part qu'il ne suffit pas et qu'il faut obligatoirement qu'il y ait le second adhan qui lui montre et marque l'entrée de l'heure de l'Fajr. Ma yukhadu min al-hadith min al-ahkam. Ce qu'on retient du hadith, awalan, jawazu al-adhan li salati al-fajr qabla dukhuli waqtiha. Premièrement, l'autorisation de faire l'adhan pour la prière de l'Fajr avant l'entrée de son heure. Thaniyan, جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم. Deuxièmement, l'autorisation d'avoir deux muezzins dans une seule mosquée et que chacun doit avoir une heure précise dans laquelle il fait son appel à la prière.
ثالثا جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده لأن ابن أم مكتوم رجل أعمى.
Troisièmement, qu'il est autorisé de prendre un muadzin aveugle et de le suivre, c'est-à-dire de prendre en compte son adhan, car Ibn Umm Maktoum était un homme aveugle.
Rabi'an, wa fihi istihbab tanbih ahli al-balad aw al-mahalla 'ala iradati al-adhan qabla tulu' al-fajr hatta yakunu 'ala basira.
Quatrièmement, il est préférable d'avertir les gens du pays ou les gens du quartier sur le fait de vouloir faire l'adhan avant Al-Fajr, afin qu'ils sachent et qu'ils soient au courant. Car si tu le fais et que les gens n'ont jamais connu cela, lorsque le muadhin va faire l'adhan, ils vont venir. Et en général, le premier adhan se fait à peu près une heure avant la prière de Al-Fajr. Il faut donc prévenir les gens pour ceux qui veulent faire revivre cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Khamisan, ittikhadu mu'adhdhin thani yu'adhdhinu ma'a tulu'il fajr.
C'est-à-dire l'autorisation de prendre un second mu'adhdhin qui fasse l'adhan au moment de l'apparition de l'aube. Donc il est autorisé de prendre deux muadhins différents. Ce n'est pas obligatoirement celui qui a fait le premier qui doit faire le second.
Sadisan, wa fihi istihbab 'adam al-kaff 'an al-akl wa ash-shurb liman arada as-siyam hatta yatahaqqaqa tulu' al-fajr wa an la yamsaka qabla dhalik wal amru fi qawlihi fakulu washrabu huwa lil-ibahati والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت وسيأتي إن شاء الله.
Sixièmement, il y a le fait qu'il est préférable de ne pas s'abstenir de boire et de manger pour celui qui désire jeûner jusqu'à ce que l'aube apparaisse, et de ne pas arrêter avant cela. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, manger et buvez, c'est pour montrer l'autorisation. Et pour montrer également que l'heure de sahur va jusqu'à ce que l'aube apparaisse. Et cela va être expliqué ultérieurement, notamment dans le chapitre du Siyam. N'aim akhi?
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم dans un autre hadith.
Si il y a aussi dans le hadith d'Abdou Mouna. فكلوا واشربوا. فكلوا واشربوا. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا.
سابعا فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفة.
Septièmement, qu'il est autorisé de prendre en considération une information rapportée par une seule personne lorsque celle-ci est digne de confiance et connue. Et ceci pour répondre aux sectes qui disent que dans la croyance, on ne peut pas prendre un seul hadith, mais il faut que le hadith soit mutawatir. Cela est une réponse contre eux, car lorsque le muadhin fait l'adhan, c'est un muadhin, c'est une seule personne, et lorsqu'il fait l'adhan, il le fait après avoir vérifié que l'heure de la prière est bel et bien entrée. Et ainsi, les musulmans prient après cet appel à la prière, autrement dit, ils lui font confiance dans l'information qu'il leur a transmise. Et ceci est une preuve contre ces sectes. On a kafi bi hadha al-qadr, wa subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.